Yo les amigos, moi je m'appelle Jeanne, je suis Jeanne et puis c'est ça. Tralalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Youpi! On va étudier parce que c'est plate, mais que je l'ai pas fait mardi passé, je suis trop conne. Et puis là, ça fait une semaine. Youpi! Alors, on a un examen de géo bientôt. Il faut étudier. Alors, voici la matière pour l'examen de géographie, territoire en région industrielle. Alors, les trois secteurs d'activité économique. L'activité économique est divisée en trois grands secteurs: primaire, secondaire et tertiaire. Le mot industrie renvoie aux activités des secteurs primaire et secondaire. L'industrie. Dans le secteur primaire, il y a l'exploitation des ressources naturelles, qui est aussi l'extraction. Donc, les ressources naturelles sont le pétrole, les forêts, les terres agricoles, les minerais, qui sont les mines, le charbon, etc. Le secteur secondaire, qui se trouve toujours dans l'industrie, c'est la transformation des matières premières et des biens mat des mat c'est la transformation des matières premières en biens matériels. Ça se passe dans une usine. Par exemple, on transforme le métal en feuilles de métal. On va faire des automobiles. On va faire de la farine, du bois de construction, des pâtes et papiers ou tout n'importe quel matériau de construction. Alors, dans quelques exemples d'industrie. Ah non. Avant, il y a le secteur tertiaire qui, lui, se trouve dans la catégorie des services. Donc, en fait, c'est on donne des services qui vont être, par exemple, on vend des produits, faire de l'éducation, services bancaires, soins de santé, administration, tourisme, transport, etc. Attention, on étend parfois le terme industrie à certaines entreprises du secteur tertiaire. Les industries du spectacle, l'industrie du tourisme, etc. Cependant, une concentration d'entreprises du secteur tertiaire dans ce lieu ne constitue pas un territoire industriel. Donc, des exemples d'industrie. On peut regrouper les industries en grandes catégories selon la nature de leur activité. Les industries du secteur primaire. Ces industries exploitent les ressources naturelles qui peuvent être ensuite transformées. Elles nécessitent des ressources à exploiter et beaucoup d'équipements lourds. L'industrie minière, l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie agricole, par exemple, sont des industries du secteur primaire. Les industries du secteur secondaire. Les industries du secteur secondaire sont composées des industries de première transformation et des industries de biens de consommation. Les industries de première transformation. Ce type d'industrie transforme les ressources naturelles en matières premières destinées à d'autres industries. Les industries de première transformation consomment beaucoup d'énergie, nécessitent de l'équipement lourd et de grandes usines. Donc, en premier, ça va être la sidérurgie, comme exemple. Ça peut être aussi des pâtes et papiers ou de la minoterie, qui est en fait les graines de céréales qui sont broyées. Les industries des biens de consommation qui sont encore dans le secteur secondaire, c'est par exemple l'automobile, l'imprimerie ou la biscuiterie. Ce type d'industrie fabrique des produits directement utilisables pour les consommateurs. La plupart des produits que l'on trouve dans le commerce en proviennent. Ta-ta-da! Let's go to page 16, a bit. Quels sont les facteurs favorables à l'industrialisation dans la région des Grands Lacs? La région des Grands Lacs possède plusieurs avantages qui attirent les industries et permettent la commercialisation des produits. Ce sont des facteurs favorables au choix du site pour les entreprises. Les facteurs naturels sont, par exemple, les terres fertiles, les forêts, les mines ou l'eau. Les aménagements vont être les infrastructures de transport ou énergétiques. Le facteur humain, c'est la main-d'œuvre et les consommateurs, puis l'aide gouvernementale, qui va être des subventions ou de l'expertise. Les facteurs naturels favorables. Un grand nombre d'industries s'installent dans la région des Grands Lacs pour en exploiter les ressources naturelles, les terres fertiles de même que les ressources forestières et minières. De plus, les grandes quantités d'eau disponibles attirent certaines industries comme l'agriculture et l'industrie des pâtes et papiers. Le facteur humain favorable. On estime que 30 à 40 millions de personnes vivent et travaillent dans la région des Grands Lacs. Au fil des ans, l'augmentation de la population a été directement liée à l'industrialisation. L'aide gouvernementale. Dans les territoires industriels, le soutien des gouvernements est essentiel. Ils offrent des subventions aux industries, négocient des ententes pour faciliter le commerce avec d'autres pays, offrent de l'expertise et mettent en place un système d'éducation pour former une main-d'œuvre qualifiée qui favorise l'innovation. En contrepartie, les industries doivent payer des taxes et des impôts et respecter les lois sur l'environnement mises en place par les gouvernements. La mondialisation économique. Les entreprises cherchent à produire des biens et des services en réduisant le plus possible les coûts afin de faire davantage de profits. Aujourd'hui, avec l'amélioration des infrastructures de transport et la diminution des coûts de transport, les entreprises peuvent acheter leurs matières premières partout dans le monde, fabriquer à l'endroit où le coût le plus bas, leurs produits à l'endroit où le coût est le plus bas, ou encore distribuer et vendre leurs produits aux quatre coins du monde. De plus, le développement des technologies de l'information et des communications, Internet notamment, permettent aux entreprises de connaître la disponibilité des matières premières, ainsi que d'acheter et de vendre des produits à distance et de faire ces transactions rapidement. Les échanges de biens et de services entre les pays augmentent tout comme la concurrence. C'est ce qu'on appelle la mondialisation économique. La délocalisation. Pour faire face à la concurrence et réaliser le plus de profits possible, les entreprises font l'acquisition de d'autres entreprises ou fusionnent avec elles. Bouh! Je t'ai fait peur. Alors, donc, pour faire face à la concurrence et réaliser le plus de profits possible, les entreprises font l'acquisition d'autres entreprises ou fusionnent avec elles pour devenir de plus en plus grandes. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises sont des multinationales. Pour faire davantage d'économies, certaines multinationales transfèrent une partie de leur production dans d'autres pays. On appelle ces transferts de la délocalisation. Le siège social de l'entreprise demeure dans le pays d'origine, mais les opérations qui nécessitent beaucoup de main-d'œuvre sont effectuées dans les pays où les salaires sont plus bas. Les produits sont ensuite distribués partout dans le monde. Le profit revient au siège social dans le pays d'origine de la multinationale. Alors, en fait, c'est comme un cercle vicieux. Alors, le pays d'origine va faire de la délocalisation en envoyant ces choses au pays d'accueil, où ça va être un pays en développement souvent, et ça va être là que ça va être produit. Il va renvoyer les revenus au pays d'origine, qui est souvent un pays développé, et c'est là qu'il y a le siège social. Où est-ce qu'on délocalise? Souvent, les multinationales vont choisir de délocaliser des activités qui exigent un grand nombre de travailleurs non spécialisés dans les pays ateliers, où les salaires sont très faibles. Donc, un pays d'atelier, c'est un pays où on trouve une main-d'œuvre bon marché qui fabrique des pièces ou qui fait l'assemblage des biens pour les pays développés. Des importants pays ateliers qu'on retrouve dans le monde, ça va être par exemple en Asie, donc ça il faut les retenir, Bangladesh, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande, Vietnam. Bangladesh, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande, Vietnam. En Amérique, il va y avoir le Brésil, le Chili, la Colombie,
et le Mexique. En Eurasie, on va avoir la Turquie et la Russie. Et puis en Afrique, on a l'Afrique du Sud ainsi que l'Égypte. Pourquoi est-ce qu'on délocalise? La main-d'œuvre est moins coûteuse dans les pays d'accueil que dans les pays d'origine. Les matières premières et les sources d'énergie sont plus accessibles et coûtent moins cher dans les pays d'accueil que dans le pays d'origine. Et troisièmement, les lois et les règlements, notamment les normes environnementales, sont moins sévères dans les pays d'accueil que dans les pays d'origine. Dernière page. Les impacts de la délocalisation dans les pays ateliers. La délocalisation d'une usine dans un pays atelier a des conséquences pour le pays d'origine et le pays d'atelier. Alors, pour le pays d'origine, ce qui est positif, c'est que ça va être une diminution de prix pour les consommateurs et un retour de profit au pays. Mais par exemple, le négatif, c'est une perte d'emploi, du chômage, perte de contrat pour les entreprises qui fournissent les matières premières, et aussi l'appauvrissement ou le déclin de la région où l'usine a été fermée. Et pour le pays d'atelier, ce qui va être positif, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus d'emplois. On va stimuler l'économie, puis le niveau de vie de la population va s'améliorer. Il va y avoir plus d'infrastructures comme des ports, des chemins de fer, des routes pour pouvoir transporter cette marchandise. Et aussi, on va avoir plus de connaissances et de compétences pour construire ça parce que les compagnies veulent pas juste comme dire mais nous on s'en va de Montréal parce que ben ça coûte moins cher, puis là ils arrivent là-bas puis leurs avions ben ils sont de la merde. Mais il y a aussi des conséquences négatives pour le pays d'atelier qui est aussi mettons que Starbucks là, il arrive au Bangladesh. Puis il y avait comme quelque chose de bien 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 populaire au Bangladesh qui s'appelait Petit Café Bangladesh. Ben Starbucks, il va tout raser, puis Petit Café Bangladesh, là, il va sacrer son camp. Parce que ben Starbucks, il est bien plus puissant. Aussi, ben il y a beaucoup plus de pollution, puis les déchets sont plus présents. Puis le mode de vie des gens est beaucoup changé parce que là, boum! Tiens, Starbucks, c'est là! Non, ça, mais c'est juste genre, mettons, une entreprise qui arrive comme. Ouais. Des pistes de solutions pour contrer la délocalisation. Pour la population des pays développés, la délocalisation des activités industrielles dans un autre pays représente une perte. Plusieurs mesures peuvent être mises en place pour contrer la délocalisation des industries. En voici quelques-unes. Inciter les consommateurs à acheter des produits fabriqués localement. Développer des compétences et des technologies qui permettent de se distinguer et de concurrencer les entreprises étrangères, taxer les produits importés ou les transports des marchandises. Cette mesure permet aux produits locaux, parfois plus chers, d'être plus concurrentiels, et aussi aider les petites et moyennes entreprises moins susceptibles de délocaliser leurs activités, par exemple en leur accordant des subventions à l'innovation et au développement. Alors, ça conclut pas mal la matière pour la partie territoire industriel. Alors, cette chose, il faut l'écouter beaucoup, les amigos. Alors, oui, écoute en boucle, petit. Cona soleil la, cona soleil, cona soleil, cona soleil la 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 la. Bouing, 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 bouing. Coucou, donc, en ce moment, on va continuer la matière de géographie. En parlant de la section territoire urbain patrimonial. Alors, premièrement, pour commencer, ça va être. On va parler, premièrement, de qu'est-ce qu'une ville patrimoniale. Ensuite, on va se demander quelles sont les villes patrimoniales dans le monde. On va parler de la ville patrimoniale de Québec et de plusieurs autres sujets. Premièrement, alors, qu'est-ce qu'une ville patrimoniale? Une ville patrimoniale, c'est une ville qui compte un ou plusieurs sites patrimoniaux. Sur un site Sur un site du patrimoine culturel, on trouve un ou plusieurs bâtiments ou monuments patrimoniaux qui ont été créés par les humains. Un patrimoine culturel, ce n'est pas un patrimoine naturel. Un patrimoine culturel, ça peut être par exemple les pyramides de Gizeh. Donc, un patrimoine culturel, ça va être par exemple les pyramides de Gizeh, parce qu'elles ont été façonnées par les humains. Et un patrimoine naturel, ça va être par exemple le parc du Grand Canyon aux États-Unis, parce que c'est un paysage naturel, c'est une formation physique, scientifique, biologique, géologique, qui ont vraiment une très très grande valeur au point de vue scientifique, esthétique ou du territoire qui servent d'habitat aux espèces menacées. Pour que quelque chose soit considéré comme patrimonial, ça doit répondre à certains critères. Les critères sont, ça doit être unique, donc il doit avoir un témoignage exceptionnel, unique ou rare d'une civilisation vivante ou disparue. Le deuxième, c'est esthétique, qui doit se démarquer par sa beauté. Et le troisième va être historique, donc il doit avoir été témoin d'une époque ou avoir marqué son temps. Et puis pour terminer, ça va être culturel, donc il doit être un exemple typique d'influence ou de différence culturelle ou traditionnelle. L'UNESCO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, ça a pour but, entre autres, de préserver le patrimoine mondial. L'UNESCO a établi une liste des sites et des biens du patrimoine mondial selon des critères qui sont semblables à ceux décrits plus tôt. La liste du patrimoine culturel mondial comporte plus de 1092 sites. Et ce nombre augmente constamment parce que l'UNESCO reconnaît chaque année des nouveaux sites. Les sites patrimoniaux qui se trouvent dans les villes posent un défi particulier car les villes doivent organiser leur développement en fonction de la conservation de ce patrimoine. Comment on fait de la conservation? En fait, c'est pour préserver un élément et le protéger de la détérioration. C'est pas à confondre avec la restauration qui est pour remettre quelque chose qui a été détruit dans un état qui se rapproche énormément de son état d'origine. Donc, les deux sont à distinguer très clairement. Les villes, ils vont tirer un avantage des sites patrimoniaux, mais elles sont composées avec certaines contraintes. Donc, les avantages, ça va être... Il y a beaucoup d'attraits touristiques autour des sites patrimoniaux. Donc, il y a plusieurs personnes qui, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller sur la liste de l'UNESCO, ils scrollent pendant un petit bout de temps, puis ils choisissent une ville comme ça au hasard. Fait que c'est bien d'avoir une ville patrimoniale dans ton pays, parce que un site patrimonial dans ton pays, parce que ça a tellement de touristes, là, de tourisme. Mais par contre, faut payer beaucoup pour le conserver. Puis, si tu ne conserves pas et que tu ne... satisfait pas les exigences de l'UNESCO, tu peux être retiré de la liste, ce qui est pas très bien pour un pays. On a parlé de la détérioration du patrimoine, mais qu'est-ce qui va menacer le patrimoine? Avec le temps, la pollution et l'érosion peuvent détériorer ou même détruire un patrimoine. D'autres sortes de menaces au patrimoine, ça pourrait être les catastrophes naturelles, comme en Iran, où il y a eu un violent tremblement de terre en 2003, et puis la cité de Bam a été très fortement endommagée. Aussi, en Géorgie, il y a un monastère qui date du Moyen-Âge qui se détériore parce qu'il n'est pas entretenu du tout. Alors, le manque d'entretien peut évidemment être une menace au patrimoine. Sinon, le nombre très élevé de visiteurs, comme par exemple en Chine, où même les autorités chinoises envisagent en ce moment de limiter l'accès à la Grande Muraille de Chine parce qu'elle se dégrade trop. Donc aussi, par exemple, une autre chose qui peut être un danger pour le patrimoine, c'est la guerre, comme la ville patrimoniale d'Alep en Syrie, qui a été bombardée en 2015 à cause de la Grande Guerre en Syrie que l'on connaît tous. Par contre, même s'il y a même s'il y a tous ces facteurs qui font une menace au patrimoine, il y a plusieurs moyens de protéger ce patrimoine-là. On va le conserver parce qu'il y a de la valeur puis qu'il est irremplaçable. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, s'il y a un patrimoine, c'est parce qu'il est unique et qu'il a une certaine valeur. Alors, pour le protéger, on va faire de l'entretien. On va limiter le nombre de visiteurs comme ils vont le faire en Chine. Ou on va faire une zone protégée. Donc, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête en ce moment. Mais ouais, une zone protégée pour justement empêcher la détérioration. Alors, les villes patrimoniales dans le monde. On trouve des villes qui comptent un site patrimonial sur tous les continents, à l'exception de l'Antarctique. Dans certaines de ces villes, les sites du patrimoine sont habités, alors que dans d'autres villes, ils ne le sont pas. Par exemple, à New York, personne n'habite sur le site patrimonial de la Statue de la Liberté. Mais dans le centre historique de Rome, plusieurs résidents habitent des bâtiments patrimoniaux. Environ 250 villes du monde ont des sites patrimoniaux qui sont habités. Elles sont regroupées au sein de l'Organisation des villes du patrimoine mondial, l'OVPM. Alors, l'OVPM, ça c'est à se rappeler, c'est l'Organisation des villes du patrimoine mondial. Alors, des villes qui sont habitées, je vais donner des exemples. Par exemple, Québec, Moscou, Paris, Rome, Katmandou, ou Hanoï, ou Brasilia, et des villes qui ne sont pas membres de l'OVPM, alors des villes qui ne sont pas habitées et qui sont des sites patrimoniaux, évidemment, comme New York, Rio de Janeiro, Athènes, Agra ou Beijing. Alors, on va continuer la matière après cette jolie chanson jouée par Shawn Mendes. Donc, on va parler dans cette partie de Québec, qui est une ville donc, on va parler de l'intramuros de la ville de Québec. Fondée en 1608 par Samuel de Champlain, Québec est la plus vieille ville francophone en Amérique du Nord. L'arrondissement historique du Vieux-Québec couvre 5% du territoire de la ville et elle fait partie de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais alors, le Vieux-Québec, il comprend la haute ville, qui est le Québec intramuros, et la basse ville. Intramuros, qu'est-ce que ça veut dire? Intramuros, c'est une expression latine qui signifie « à l'intérieur des murs ». Les murs du Vieux-Québec sont des remparts qui s'étendent à près de 4,6 km. Ils ont été construits à partir de 1745 pour défendre la haute ville contre les envahisseurs. Où est-ce que Québec est situé? Donc, Québec, c'est une ville qui se trouve en Amérique du Nord, plus précisément au Canada, dans la province de Québec. Québec est la capitale de la province. Pour mieux comprendre comment est formée la ville de Québec, on peut aller retrouver une carte dans le cahier Géo à la carte patrimoine, page 13. Ce qu'on recommande fortement de faire parce que c'est un examen, espèce de petit cop. Alors, donc, ouais, alors il faut aller voir une carte parce que ce serait quand même important. Dans le Vieux-Québec, on retrouve le Cap Diamant. Le Cap Diamant, c'est une falaise de 90 mètres de hauteur qui a servi de protection naturelle à la ville de Québec. Son relief escarpé facilitait la défense du territoire car les soldats ennemis auraient eu de la difficulté à l'escalader. Comme l'un de ses côtés était moins bien protégé, on y a érigé des fortifications. La haute ville s'est développée au sommet du Cap Diamant. On y trouvait les bâtiments religieux et administratifs. Dans la basse ville, près du fleuve, se déroulaient les commerces et les activités portuaires. Alors, quel est le patrimoine de Québec? Le site patrimonial du Vieux-Québec a une valeur historique. On y trouve une concentration d'éléments patrimoniaux qui datent de différentes époques. Du régime français, qui est de 1608 à 1760, du régime anglais, de 1760 à 1867, et de la période contemporaine, de 1867 à aujourd'hui. Les influences et les styles qui caractérisent l'architecture des bâtiments sont donc variés, mais ils forment un ensemble harmonieux qui constitue le patrimoine du Vieux-Québec. Alors, des éléments patrimoniaux qui datent de l'époque du régime français. Voici les éléments patrimoniaux, comme je viens de le dire, du régime français qui se trouve dans la ville de Québec. Premièrement, on a la place royale. La place royale est située dans la basse ville. C'est le lieu où Samuel de Champlain a fondé Québec en 1608. On y trouve l'église Notre-Dame des Victoires, qui est l'une des plus vieilles églises en Amérique du Nord. Elle a été construite en 1688. On y trouve aussi un buste du roi Louis XIV. Un autre bâtiment patrimonial du régime français est le monastère des Ursulines de Québec. Certains de ces bâtiments datent de 1639. En plus de sa fonction religieuse, ce monastère a toujours été un lieu d'enseignement. Récemment, on y a aménagé un musée. Ensuite, la place d'armes a été aménagée entre 1640 et 1648. C'est un lieu de parade et d'exercice militaire des soldats français. C'est ensuite devenu un parc public. Le monument de la foi, qui est au centre, a été érigé beaucoup plus tard, soit en 1915. Pour terminer, nous avons la maison Jacquet, qui est une résidence ancienne d'inspiration française, construite en 1675. Ce bâtiment abrite aujourd'hui un restaurant. Les fortifications. Québec est la seule ville d'Amérique du Nord à avoir conservé ses fortifications. Celles-ci comprennent les remparts de pierre et les constructions défensives, comme la caserne et les postes de garde, ainsi que des portes. Ces fortifications témoignent de la réalité militaire qui a marqué l'histoire de Québec, la menace d'une invasion. Construite à partir de 1745, par les Français pour protéger la ville de Québec contre l'armée anglaise, elles ont été achevées avec l'ajout de la citadelle et des tours Martello après 1760 par les Anglais qui voulaient se défendre en cas d'invasion américaine. Capsule d'histoire. La défaite française. En 1759, l'armée anglaise a attaqué Québec. Environ 10 000 bombes et 40 000 boulets de canon ont été lancés sur la ville. Les fortifications ont tenu le coup, mais plusieurs bâtiments de la haute ville et de la basse ville ont été détruits. Finalement, la défaite française s'est produite à l'extérieur des murs, sur les plaines d'Abraham. Comme le dit si bien la chanson, « Sur les plaines d'Abraham, c'était Wolfe et puis Montcalm. Sur les plaines d'Abraham, c'était Wolfe et puis Montcalm. Et c'est Wolfe qui a gagné, Montréal a capitulé. » C'était la capsule chanson de Jeanne. Après le régime français, comme on vient de le voir, il y a eu la défaite des Français aux mains des Anglais. Les Anglais ont continué le patrimoine de la ville de Québec avec certains bâtiments, comme par exemple la citadelle. La citadelle de Québec, c'est une forteresse qui a été construite entre 1819 et 1832, par l'armée anglaise qui craignait des attaques françaises et américaines. Elle abritait les soldats anglais qui devaient défendre la ville. Elle est située en hauteur, sur le Cap Diamant, de manière à dominer les environs. Aujourd'hui, la citadelle de Québec sert toujours de quartier général au Royal du 22e régiment de l'armée canadienne et abrite un musée consacrée à l'histoire militaire de ce régiment. Elle est aussi la résidence secondaire du gouverneur général du Canada. Un deuxième bâtiment patrimonial datant du régime anglais serait la terrasse Dufferin. La terrasse Dufferin est une immense promenade de bois aménagée dans les années 1800 sur les ruines du château Saint-Louis, détruit par un incendie. Construite au-dessus des remparts, la terrasse Dufresne permet d'observer le fleuve Saint-Laurent et les basses villes de Québec. Elle est située au pied de l'actuel château Frontenac, qui n'existait pas encore à l'époque, et permet de marcher jusqu'à la citadelle. Voici les éléments patrimoniaux, comme je viens de le dire, du régime français qui se trouve dans la ville de Québec. Premièrement, on a la place royale. La place royale est située dans la basse ville. C'est le lieu où Samuel de Champlain a fondé Québec en 1608. On y trouve l'église Notre-Dame des Victoires, qui est l'une des plus vieilles églises en Amérique du Nord. Elle a été construite en 1688. On y trouve aussi un buste du roi Louis XIV. Un autre bâtiment patrimonial du régime français est le monastère des Ursulines de Québec. Certains de ces bâtiments datent de 1639. En plus de sa fonction religieuse, ce monastère a toujours été un lieu d'enseignement. Récemment, on y a aménagé un musée. Ensuite, la place d'armes a été aménagée entre 1640 et 1648. C'était un lieu de parade et d'exercice militaire des soldats français. C'est ensuite devenu un parc public. Le monument de la foi, qui est au centre, a été érigé beaucoup plus tard, soit en 1915. Pour terminer, nous avons la maison Jacquet, qui est une résidence ancienne d'inspiration française, construite en 1675. Ce bâtiment abrite aujourd'hui un restaurant. Les fortifications. Québec est la seule ville d'Amérique du Nord à avoir conservé ses fortifications. Celles-ci comprennent les remparts de pierre et les constructions défensives, comme la caserne et les postes de garde, ainsi que des portes. Ces fortifications témoignent de la réalité militaire qui a marqué l'histoire de Québec. La menace d'une invasion. Construite à partir de 1745, par les Français pour protéger la ville de Québec contre l'armée anglaise, elles ont été achevées avec l'ajout de la citadelle et des tours Martello après 1760 par les Anglais qui voulaient se défendre en cas d'invasion américaine. Capsule d'histoire. La défaite française. En 1759, l'armée anglaise a attaqué Québec. Environ 10 000 bombes et 40 000 boulets de canon ont été lancés sur la ville. Les fortifications ont tenu le coup, mais plusieurs bâtiments de la haute ville et de la basse ville ont été détruits. Finalement, la défaite française s'est produite à l'extérieur des murs, sur les plaines d'Abraham. Comme le dit si bien la chanson, sur les plaines d'Abraham, c'était Wolfe et puis Montcalm. Sur les plaines d'Abraham, c'était Wolfe et puis Montcalm. Et c'est Wolfe qui a gagné, Montréal a capitulé. C'était la capsule, chanson de Jeanne. Après le régime français, comme on vient de le voir, il y a eu la défaite des Français aux mains des Anglais. Les Anglais ont continué le patrimoine de la ville de Québec avec certains bâtiments, comme par exemple la citadelle. La citadelle de Québec, c'est une forteresse qui a été construite entre 1819 et 1832 par l'armée anglaise qui craignait des attaques françaises et américaines. Elle abritait les soldats anglais qui devaient défendre la ville. Elle est située en hauteur sur le Cap Diamant de manière à dominer les environs. Aujourd'hui, la citadelle de Québec sert toujours de quartier général au Royal du 22e régiment de l'armée canadienne et abrite un musée consacrée à l'histoire militaire de ce régiment. Elle est aussi la résidence secondaire du gouverneur général du Canada. Un deuxième bâtiment patrimonial datant du régime anglais serait la terrasse Dufresne. La terrasse Dufresne est une immense promenade de bois aménagée dans les années 1800 sur les ruines du château Saint-Louis, détruit par un incendie. Construite au-dessus des remparts, la terrasse Dufresne permet d'observer le fleuve Saint-Laurent et les basses villes de Québec. Elle est située au pied de l'actuel château Frontenac, qui n'existait pas encore à l'époque, et permet de marcher jusqu'à la citadelle. Comme je viens de le dire, après le régime anglais se trouve la période contemporaine, qui a eu lieu à partir de 1867, soit la Constitution canadienne. Le château Frontenac ne date pas du régime français, ni même du régime anglais. Il a été construit un peu plus tard, en 1893. Il n'a jamais été le château d'un noble ou d'un gouverneur. C'est plutôt un hôtel de prestige. Sa beauté en fait un élément patrimonial du Vieux-Québec. La terrasse Dufresne a été agrandie en 1878 et elle donne sur le château Frontenac. Comment préserver Québec, qui est une ville patrimoniale habitée? Le patrimoine constitue un héritage qu'on souhaite transmettre aux générations futures. Pour préserver la valeur patrimoniale de l'arrondissement historique du Vieux-Québec, il est important d'abord d'entretenir les sites historiques pour prévenir leur détérioration. Dans certains cas, il faut procéder à des travaux de restauration. Donc, la restauration. Les sites historiques non détériorés, on fait de l'entretien. L'entretien consiste à faire de la protection des matériaux extérieurs exposés aux intempéries. On va les nettoyer, les renouveler, des peintures et des enduits, etc. Ensuite, on va faire de la réparation et on va remplacer des composantes qui s'usent, comme des portes, des fenêtres, des réouvrements de toiture, etc. Si le site historique est détérioré, on fait de la reconstruction. Donc, on va faire des modifications qu'on va ajouter ou on va transformer et qu'on va à un bâtiment, tout en préservant ses caractéristiques patrimoniales, bien évidemment. On va reconstruire une partie ou la totalité d'un bâtiment. Le but, c'est de remettre dans son état d'origine. Comment moderniser en conservant la beauté patrimoniale? L'arrondissement historique du Vieux-Québec est un patrimoine habité. Cela signifie que ces bâtiments anciens servent encore de résidence, de commerce, d'église, etc. Le patrimoine du Vieux-Québec comporte des éléments importants de continuité. Par exemple, certains bâtiments ont conservé leur style, leurs matériaux d'origine et leurs fonctions résidentielles ou religieuses. Ils sont un véritable héritage du passé. Le patrimoine de Québec a aussi connu des changements importants. Certains édifices ont changé de fonction. Par exemple, d'anciennes résidences sont devenues des commerces ou des bureaux. Aussi, plusieurs bâtiments identiques à les bâtiments d'origine ont été restaurés. L'utilisation de nouveaux matériaux et de l'agrandissement n'est pas nécessaire pour être identique. Toutefois, pour préserver la beauté patrimoniale du Vieux-Québec, les bâtiments doivent s'intégrer dans un ensemble architectural harmonieux. Aménager la ville patrimoniale. La ville patrimoniale de Québec s'est transformée au fil du temps. L'avènement de l'automobile et de l'électricité a représenté un défi important pour la préservation du patrimoine de la ville. La nécessité d'élargir une rue, par exemple, pour faciliter la circulation, a entraîné la démolition et la reconstruction de la façade de certains édifices. De nouveaux aménagements sont devenus nécessaires pour répondre aux besoins des résidents, comme des stationnements, un réseau électrique, des escaliers, etc. Les aménagements touristiques. Le patrimoine de l'arrondissement du Vieux-Québec attire de nombreux touristes. On a donc conçu des aménagements touristiques pour les accueillir. La ville patrimoniale s'est ainsi transformée pour répondre aux besoins des touristes. On y trouve de nombreux cafés et restaurants, des auberges et des boutiques de souvenirs. Comment le patrimoine du Vieux-Québec a-t-il été protégé? Depuis 1850, L'urbanisation de Québec fait pression sur les constructions historiques devenues un obstacle à son développement. Une lutte s'oppose. Les gens en sont en faveur du progrès et ceux qui sont en faveur de la conservation du patrimoine. Donc, il y a des arguments qui font face des deux côtés. En faveur du progrès, les gens vont dire que les fortifications et les autres ouvrages militaires nuisent à la modernisation de la ville et que les fortifications prennent de la place et contraignent la circulation. D'autres gens, par contre, vont vouloir vraiment conserver leur patrimoine parce que les fortifications et les autres bâtiments anciens ont une valeur puis ils sont un patrimoine à protéger et que ça favorise énormément le tourisme, ce qui est très bénéfique en termes de capitaux. Il y a un personnage qui est très important dans cette histoire qui s'appelle Lord Dufferin. Donc, en 1871, il va y avoir des portes et des remparts qui vont être démolis afin de faciliter l'accès au Vieux-Québec. Lorsqu'il a été nommé gouverneur général du Canada, Lord Dufferin souhaite protéger et embellir le patrimoine de la vieille ville. C'est avec lui qu'on a véritablement commencé la protection du patrimoine du Vieux-Québec. Il a fait reconstruire les portes détruites en les élargissant et a fait construire deux nouvelles pour améliorer la circulation. Il a aussi fait agrandir la terrasse qui porte aujourd'hui son nom, la terrasse Dufferin. Né en Italie, Lord Dufferin a été nommé gouverneur général du Canada en 1872. À son arrivée à Québec, il a trouvé la magnifique ville et il a admiré particulièrement son patrimoine militaire. Il a même utilisé la citadelle comme résidence secondaire. Il a gagné le respect de nombreux citoyens de Québec en sauvant les remparts de la démolition. Je vais donner un exemple de l'évolution dans le temps de la Porte Saint-Louis. En 1860, elle était très ancienne et pas si impressionnante, selon moi. En 1876, il y a une nouvelle Porte Saint-Louis qui serait construite à la demande de Lord Dufferin parce qu'en 1970, elle avait été détruite. Alors, la Porte Saint-Louis est reconstruite et aujourd'hui, elle a l'air grandiose avec des pics en haut puis vert et tout, comme une église un peu. C'est magique. Alors, on s'en va écouter une petite chanson pour se remettre dans la bonne humeur. Merci Hubert pour cette chanson, ma foi, inspirante. C'était Fille de personne de Hubert Lenoir, oui. Maintenant, on va parler d'enjeux qui seraient conserver le patrimoine d'une ville. La croissance de la population ou le très grand nombre de touristes peut menacer le patrimoine de certaines villes. La conservation du patrimoine représente donc un enjeu important dans ces villes. Conserver le patrimoine du Vieux-Québec. Le Vieux-Québec est un lieu de vie pour plus de 4500 résidents, dont plusieurs habitent des maisons patrimoniales. Les habitants sont des acteurs très importants dans la conservation du patrimoine qui fait le charme du Vieux-Québec. Conserver le patrimoine du Vieux-Québec. Les problèmes. Le tourisme génère de la pollution et des déchets, du bruit, de la circulation et la création d'un grand nombre de commerces destinés presque exclusivement au tourisme. La configuration des rues sont problématiques parce que les rues sont étroites, elles sont à sens unique, il va y avoir beaucoup de pentes, la collecte des ordures va être désavantagée et tout. Et également, la restauration des bâtiments, à cause de ça, il y a beaucoup d'exigences gouvernementales qui vont rendre les travaux de rénovation beaucoup plus dispendieux que l'aide qui est offerte par l'UNESCO. Les conséquences de ces problèmes vont être la baisse du nombre de résidents. Plusieurs vont choisir d'aller vivre en banlieue et ça entraîne une augmentation du nombre de bâtiments inhabités qui vont se détériorer éventuellement. Une diminution des services et des commerces à proximité pour répondre aux besoins des résidents, comme des écoles, des cliniques, des épiceries, des pharmacies, etc. Ainsi que l'achat des propriétés par des investisseurs, parfois étrangers, qui vont être américains ou européens en grande majorité, qui vont les utiliser seulement comme résidence secondaire. Par ailleurs, à Venise. La 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 la. C'était-tu une musique de... On s'en fout. On va voir Venise après Venise après la chanson. C'était Jeu d'école de Marie-Mé. On va finir le patrimoine en voyant Venise et des solutions pour conserver le patrimoine à Québec. Alors, à Venise, il y a une diminution de population. Venise, qui est une autre ville patrimoniale mondiale, a connu une importante diminution de la population depuis 50 ans. Comme pour le Vieux-Québec, les résidents en désertent le centre historique. Il y a plusieurs causes de ce phénomène. Les résidents ne trouvent pas suffisamment de services à proximité, leur milieu de vie est envahi par les touristes et le prix des logements a beaucoup augmenté à cause des étrangers qui les achètent pour en faire des résidences secondaires qu'ils n'habitent qu'ailleurs, presque pas. Pour terminer cette partie sur le patrimoine, on va parler des solutions pour conserver le patrimoine mondial du Vieux-Québec. Alors, la première solution, ce serait financer la rénovation des logements vacants dans les bâtiments patrimoniaux, ainsi que d'offrir davantage de services et de commerces à proximité, comme les épiceries, les pharmacies, les cliniques, les quincailleries, les garderies, les écoles, les banques, etc. Cette solution est proposée par les résidents du Vieux-Québec. Et ce qui ça ferait de bien, c'est que ça favorise le maintien des résidents dans le Vieux-Québec. Mais par contre, ça coûte cher. Ça nécessite le financement de la ville et du gouvernement. La solution proposée par les défenseurs du patrimoine, c'est de réduire la circulation des voitures et autobus en aménagement des stationnements indicatifs à l'intérieur du Vieux-Québec, en implantant des autobus électriques et en aménageant des rues piétonnières, etc. Ce que ça fait, c'est que ça réduit la pollution, le bruit, l'encombrement lié à la circulation automobile, ainsi que ça dégage le paysage. Mais par contre, ça peut contrarier certains touristes ou résidents s'ils ne peuvent pas circuler en voiture. Pour finir, on va juste écouter une chanson parce que ça me tente. Yo, moi je fais ce que je veux. Ok, goodbye, on se voit dans 3 secondes en parlant des autochtones. Bye! J'espère que cette chanson de The Fifth Dimension vous a redonné le sourire parce que cette étude se devient dépressive. Maintenant, on va parler des territoires autochtones. Les territoires autochtones, c'est le cahier bleu. Je sais pas pourquoi je dis ça, parce que vous le savez déjà. Youpi! Wow! Ok, alors, on va commencer par se demander qu'est-ce qu'un territoire autochtone? Un territoire autochtone, c'est un territoire sur lequel habite une population autochtone, qui est reconnue par le gouvernement d'un pays et sur lequel les autochtones ont une autonomie particulière qui leur accorde un certain pouvoir. Qu'est-ce qu'un autochtone? Le mot autochtone désigne une personne née sur le territoire qu'elle habite ou sur lequel a vécu ses ancêtres avant l'arrivée d'un peuple colonisateur. Selon le gouvernement du Canada, il y a trois groupes d'autochtones au pays. Les Premières Nations, les Inuits, et les Métis. Les caractéristiques d'un peuple autochtone. Les peuples autochtones dans le monde sont tellement nombreux qu'il est difficile d'en former une définition universelle. Toutefois, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, a établi trois critères auxquels doivent répondre une population pour être considérée comme étant un peuple autochtone. Selon l'ONU, pour être considéré un peuple autochtone, un peuple doit avoir existé sur un territoire bien avant l'arrivée des peuples colonisateurs. Par exemple, les Mayas, ils ont des pyramides qui ont été construites au 4e siècle avant Jésus-Christ au Guatemala. Alors les Mayas sont un peuple autochtone. Ils doivent aussi avoir un attachement profond envers leur territoire de ses ancêtres et entretenir une culture distincte, comme une langue, une coutume ou un mode de vie. Par exemple, il y a les Maasai qui vivent en Tanzanie et ils font des danses traditionnelles, donc ils sont un peuple autochtone. La troisième caractéristique d'un peuple autochtone, c'est qu'ils doivent se considérer comme étant différents du peuple qui domine le territoire. Par exemple, Au Québec, on a la ville de Ouagadougou, qui utilise un système d'écriture différent du français et de l'anglais, qui va être des symboles. Donc, par exemple, le W, c'est comme un Q avec un petit point à gauche. Alors, le peuple autochtone de Ouagadougou est un peuple autochtone parce qu'ils sont différents du peuple dominant du territoire, étant les Québécois dans ce cas-ci. Les autochtones au Québec. Au Québec, on trouve plusieurs peuples autochtones. Ils forment 11 nations. Juste pour dire, les mots peuple et nation, ce sont des synonymes. Alors, ça veut dire la même chose. Les nations au Québec. Alors, il y a les trois familles. Donc, il y a les Inuits, les Algonquins et les Iroquois. Alors, dans la famille des Inuits, on va avoir les Inuits. C'est quand même simple à se souvenir. Dans la famille algonquienne, on a 8 nations autochtones. Ça va être les Abénaki, les Algonquins, Atikamek, les Cris, les Malécites, les Mi'kmaq, les Innu et les Naskapi. Dans la famille des Iroquois, on a les Huron-Wendat et les Mohawks. Alors, ces peuples sont à se souvenir très bien. On peut utiliser la chanson de Alexandre Béliard pour s'en rappeler. Je vais la mettre juste là parce que ça peut être quand même très utile.
Tu m'appelles montagnier, tu m'appelles cri, tu m'appelles tête de boule, tu m'appelles Algonquin, tu m'appelles Naskapi, tu m'appelles Abénaki, tu m'appelles Mi'kmaq, tu m'appelles Huron, tu m'appelles Iroquois.
Alors, on va continuer avec les territoires autochtones dans le monde. Les autochtones sont répartis dans 70 pays sur tous les continents, sauf l'Antarctique. Selon l'ONU, on compterait approximativement 450 millions d'autochtones sur la planète. Ils forment environ 6% de la population mondiale. Je vais nommer les principaux peuples autochtones dans le monde. Alors, au Canada, on va avoir les Cris, les Naskapi et les Inuits. En Amérique centrale, on va retrouver les Mayas. Au Pérou, en Bolivie, en Équateur et en Argentine, on a les Quechua. En Afrique, on va avoir les Touaregs. Les Maasai, qui vont être au Kenya et en Tanzanie. Ça, fun fact, ça me fait vraiment penser à la chanson de Arthur Aventurier, genre Maasai, Maasai, ouh, ouh, ouh. Attends, je vais la mettre live. Youp, youp. Alors, ouais, c'était ça la petite chanson jeudi magique. Aussi, en Afrique centrale, on va avoir les Pygmées. Sinon, en Europe et en Asie, on va avoir les Lapons, qui vont être en Suède, en Norvège, en Finlande et en Russie. En Russie, on a aussi les Nenets. Et en Sibérie, on a les Lakout. Au Pakistan et en Afghanistan, on a les Pashtuns. Et on a les Kurdes, qui sont en Turquie, en Iran, en Irak et en Syrie. Les Haïtas sont aux Philippines. Et on va avoir les Aborigènes en Australie. Et pour finir, on a les Papous en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors, ceux qui sont le plus importants à retenir, ce sont les Inuits qui sont au Canada, les Mayas au Guatemala, les Quechua au Pérou, les Maasai au Kenya. Et pour finir, les Aborigènes en Australie, les Nenets en Sibérie et les Touaregs en Afrique. Alors, on va faire une pause parce que je change de
truc, blabla. Ok.
Alors, après cette petite interlude de la part de Oasis, on va parler des revendications autochtones dans le monde, qui sont un défi planétaire. Les peuples autochtones du monde souhaitent avoir un pouvoir décisionnel sur leur territoire. Certains peuples ont signé des ententes avec les gouvernements, alors que d'autres ne l'ont pas fait. Parmi ces derniers, des peuples ont perdu notamment des droits, d'autres leurs terres ancestrales. Les revendications des Autochtones portent le plus souvent sur le territoire, l'économie et la culture. En voici quelques exemples. Les revendications territoriales. Plusieurs peuples autochtones s'opposent à l'exploitation de leur territoire et au contrôle qu'exerce le gouvernement ou certaines entreprises d'exploitation sur celui-ci. Ils revendiquent le droit de gérer eux-mêmes leur territoire et de décider comment il est développé. Par exemple, on peut parler des Bushmen qui sont profondément bouleversés et inquiets avant l'annonce du verdict concluant le procès qui a impliqué la communauté autochtone contre le gouvernement botswanais en 2006. Les Bushmen habitent le désert du Kalahari au Botswana depuis des milliers d'années. Le mode de vie traditionnel de ce peuple est basé sur la chasse et la cueillette. Au cours des années 1990 et 2000, les Bushmen ont été expulsés de leur territoire par le gouvernement qui voulait en exploiter les mines de diamants. Une dizaine d'années plus tard, les Bushmen, soutenus par l'organisme Survival International, ont entrepris une longue et coûteuse bataille juridique pour récupérer les terres et avoir accès à l'eau. En 2006, la Cour a autorisé leur retour sur le territoire et en 2011, leur a redonné leur accès à l'eau. Survival International. Survival International est un organisme fondé en 1969 en Grande-Bretagne qui met en place des moyens pour aider les peuples autochtones à faire respecter leurs droits et leur culture. Il leur permet aussi de s'exprimer et de faire valoir leurs revendications à l'aide de pétitions ou en organisant des campagnes de financement. Ils aident ainsi les peuples autochtones désireux de faire pression sur les gouvernements à acquérir ou à retrouver un certain pouvoir décisionnel sur leur territoire. Ensuite, on va avoir les revendications économiques. Les Autochtones habitent des territoires très riches en ressources naturelles, mais ils comptent malgré tout parmi les individus les plus pauvres de la planète. Les Autochtones demandent donc une répartition plus juste des retombées économiques relatives aux activités d'exploitation. La grève des mineurs papous en 2011. Les papous habitent un territoire riche en or et en cuivre. D'ailleurs, ils forment la majorité des travailleurs des mines exploitées par le groupe américain Freeport sur leur territoire, mais ont des salaires très bas et des conditions de travail difficiles. En 2011, les papous ont réclamé des hausses de salaire et des meilleures conditions de travail, ce que les propriétaires leur ont refusé. Les mineurs papous ont alors fait la grève et ont bloqué l'accès aux mines. Après 3 mois de revendications, l'entreprise a consenti à augmenter légèrement leur salaire. L'ONU et les droits des Autochtones. En 2007, l'Organisation des Nations Unies, ONU, a signé une déclaration établissant un certain nombre de normes afin de garantir la survie des peuples autochtones partout dans le monde et de confirmer leur dignité comme peuple. Ainsi, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones stipule d'une part que les Autochtones ne peuvent pas être expulsés de leur terre ancestrale et d'autre part qu'ils doivent être en mesure de développer leur secteur économique, social et culturel sur leur territoire. Un problème subsiste malgré tout. Rien n'oblige les gouvernements à respecter cette déclaration. En effet, l'ONU ne peut pas dicter le comportement d'un gouvernement sur son territoire. Il ne peut que pointer du doigt les pays qui ne l'ont pas respecté ces déclarations. Des revendications culturelles. Les peuples autochtones font aussi des revendications pour préserver leur langue, leur culture et leurs traditions héritées de leurs ancêtres. Plusieurs peuples autochtones demandent notamment d'avoir le droit de décider des programmes d'éducation mis en place dans leurs écoles. Le territoire ancestral des Zenawenawe est situé dans la forêt amazonienne à l'ouest du Brésil. Les Zenawenawe pratiquent le rituel du Yakoa. Ils constituent des bagarres de branches tressées afin de prendre le poisson, puis ils mettent leurs prises ainsi dans des fumoirs afin de les offrir aux esprits lors du rituel sacré. Ce rituel dure 7 mois, étant mené par la déforestation et la construction des barrages hydroélectrique. Non, menacé, pas mené, désolé. Alors, ce rituel, qui dure 7 mois, était menacé par la déforestation et la construction des barrages hydroélectriques. En 2011, l'importance du Yacoua a été reconnue par l'UNESCO. L'année suivante, ce fut au tour du ministère de la Culture du Brésil de reconnaître le Yacoua comme activité du patrimoine culturel et historique national du pays. Depuis, pour assurer la sauvegarde du rituel, des projets de barrage ont été suspendus et de l'argent a été donné à la communauté pour entretien de ses bateaux de pêche. Le Jour national du pardon. En 2008, en Australie, le gouvernement a reconnu le tort des injustices qui ont subi les aborigènes depuis l'arrivée des colonisateurs anglais. Le premier ministre a alors présenté ses excuses officielles à ce peuple autochtone. Déjà en 1898, une demande de pardon avait été signée par plus de 24 000 personnes. Cet événement avait donné naissance au National Sorry Day, ou au Jour national du pardon. Un an plus tard, le premier ministre du pays signait une loi de réconciliation avec le peuple aborigène. C'est ce qui conclut pas mal le volet autochtone de l'examen. On va finir ça avec des petites chansons parce que je m'emmerde.
Youpi! J'adore les chansons! Blablabla, 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 lili.
Maintenant qu'on a fait le territoire autochtone, le territoire patrimonial et les régions industrielles, on va rentrer dans les territoires agricoles à risque. Alors, on va commencer par qu'est-ce qu'un territoire agricole à risque? Sur l'ensemble de la Terre, environ le tiers du territoire est utilisé pour les activités agricoles comme la culture ou l'élevage. Certains de ces territoires agricoles se trouvent dans des milieux à risque. Ils sont constamment sous la menace de subir des catastrophes, ce qui met en danger les récoltes et la sécurité des gens qui y vivent. On distingue deux types de risques, les risques naturels et les risques artificiels. Les risques naturels, donc, certains facteurs naturels constituent des risques pour l'agriculture, comme par exemple un climat sec qui peut entraîner un manque d'eau, un climat favorable à la mousson qui peut entraîner des quantités de précipitations extrêmes et des inondations. La mousson est un vent saisonnier qui souffle dans les régions tropicales et qui apporte d'énormes quantités de pluie en été. Aussi, ça peut être des températures extrêmes qui provoquent la chaleur excessive. Donc, elles vont assécher des régions alors que le gel peut détruire des récoltes. Ça peut être aussi de l'érosion des sols par l'eau et le vent qui peuvent rendre la terre infertile ou encore la présence d'insectes ravageurs qui peuvent entraîner la destruction des récoltes. Il y a aussi les risques artificiels. Donc, certaines actions humaines constituent des risques pour l'agriculture. Par exemple, la mauvaise pratique agricole peut épuiser des sols et contaminer l'eau. Aussi, l'émission de gaz à effet de serre contribue au réchauffement planétaire. De plus, la pollution peut contaminer l'air, le sol et l'eau qui sont nécessaires à l'agriculture. Et pour finir, la présence d'industries potentiellement dangereuses, comme nucléaires, pétrolières, etc., peuvent entraîner des accidents industriels comme des déversements, des explosions et des incendies. Malgré les difficultés, l'agriculture est essentielle dans les milieux à risque. Elle donne aux populations de ces régions une certaine sécurité alimentaire et leur permet de ne pas dépendre des importations. Les territoires agricoles à risque dans le monde. Partout dans le monde, les territoires agricoles sont soumis à différents risques naturels. Le principal facteur de risque est le climat. Un climat sec favorise la sécheresse alors qu'un climat de mousson favorise les inondations. Les régions à risque d'être frappées par des typhons, des cyclones et des ouragans sont aussi vulnérables aux inondations. De nombreux agriculteurs cultivent dans des milieux à risque. C'est le cas en particulier dans les pays où la pauvreté ne laisse pas d'autre option. Les agriculteurs y pratiquent surtout une agriculture de subsistance. Donc, les climats, je vais nommer 6 climats qu'il faut s'en rappeler. Alors, dans les prairies canadiennes, on va avoir un climat sec et on va faire de l'agriculture aussi. Oui, dans les 6 exemples, on fait de l'agriculture là. Alors, en Espagne, on fait de la culture d'olive, même si le climat Et c'est un climat sec de la Méditerranée. Et au Mali, on va faire de l'agriculture dans le climat semi-désertique du Sahel. Dans le nord-est de l'Inde, on fait de l'agriculture pendant la mousson. Au Bangladesh, il y a des inondations qui sont causées par la mousson. Et en Asie, il y a des inondations près des rives du Mekong où on va faire la culture de riz. Alors, maintenant on va parler du Sahel. Quel est le climat dans le Sahel? Le climat du Sahel est caractérisé par l'alternance entre la saison sèche et la saison des pluies. Les précipitations sont très irrégulières, donc difficiles à prévoir. Lorsqu'il pleut, la pluie est parfois si intense qu'elle s'accumule en forme de ruisseaux qui peuvent même emporter une partie du sol. On parle de sécheresse lorsque les pluies sont insuffisantes. Les précipitations varient entre le nord et le sud du Sahel. Alors, il y a plusieurs graphiques à aller regarder dans le cahier « Milieu à risque » à la page 13. Alors, ensuite, on va aller à la page 16. Alors, que produit-on sur le territoire du Sahel? Les pays du Sahel sont des pays en développement qui regroupent au total plus de 123 millions d'habitants, majoritairement pauvres. Environ 33% d'entre eux souffrent régulièrement de sous-alimentation. La région du Sahel se caractérise par la ruralité, car une grande partie de la population vit de l'agriculture. L'agriculture de subsistance. Une part importante de la production agricole du Sahel vise à combler les besoins alimentaires de la population locale, principalement les agriculteurs et leurs familles. Cette production n'est donc pas exportée. C'est ce qu'on appelle une agriculture de subsistance. Donc, c'est une agriculture de survie. On va faire ça surtout dans le nord. Alors, la culture des céréales. Au Sahel, on pratique surtout la culture des céréales, donc le mil, le sorgho, le millet, le riz, le maïs, etc. Également l'élevage, donc de viande et de produits laitiers. On va élever des chameaux, des moutons, des zébus, des bœufs, des vaches, des chèvres, etc. Certains agriculteurs pratiquent à la fois la culture des céréales et l'élevage. D'autres, en particulier dans le nord du Sahel, font de l'élevage nomade. Ils se déplacent pour conduire leurs troupeaux au point d'eau et au pâturage. La productivité de l'agriculture au Sahel est faible. Les sols sont naturellement peu fertiles. De plus, les engrais et les pesticides et la machinerie agricole coûtent trop cher pour les agriculteurs des pays en développement de l'Afrique. Les transformations des produits agricoles se font de façon artisanale par les agriculteurs. On y pratique donc un mode de culture extensif, c'est-à-dire peu mécanisé, peu productif et qui nécessite de laisser des terres en jachère. L'agriculture d'exportation. Certaines productions agricoles du Sahel, comme l'arachide et le coton, sont destinées à être exportées. La mise en marché de ces produits est très différente de celle des produits de la culture de subsistance. Pour la production du coton, par exemple, ce sont généralement de grandes entreprises étrangères qui fournissent les graines et achètent les récoltes pour vendre ailleurs dans le monde, comme en Europe ou en Amérique du Nord. Des routes et des chemins de fer permettent d'acheminer la production vers les ports d'exportation où elle est expédiée par bateau vers d'autres continents. Donc, page 21. Quelles catastrophes peuvent survenir au Sahel? Au Sahel, l'environnement naturel est peu propice à l'agriculture, car il y a un climat sec, des précipitations irrégulières, un faible approvisionnement en eau, une mauvaise qualité de sol, etc. Toutefois, on cultive quand même la terre car les besoins alimentaires de la population doivent être comblés. La sécheresse. Lorsque les précipitations sont insuffisantes, le manque d'eau provoque des conséquences pour la population. La hausse des prix des aliments qui sont rares, la famine, ainsi que des difficultés économiques dans les pays touchés liées à la perte de revenus causée par la baisse des exportations de coton, d'arachide, etc. La dégradation des terres et la désertification. Un autre phénomène touche le Sahel. La dégradation des terres agricoles. Dans les sols dégradés, la végétation ne peut pas vivre, donc ces sols ne peuvent servir à l'agriculture ni au pâturage. Les terres qui ne sont plus fertiles, dans un climat sec comme celui du Sahel, deviennent un désert. On appelle ce phénomène désertification. Et là, il faut aller à la page 22. Oui, OK. Qu'est-ce qui provoque la désertification au Sahel? Les risques naturels. La désertification du Sahel est amplifiée par des facteurs naturels comme le manque d'eau dû au climat et l'érosion des sols causée par le vent et les précipitations intenses lors de la saison des pluies. Les risques artificiels. Plusieurs activités humaines contribuent à aggraver la désertification au Sahel. Elles sont souvent directement liées à la pauvreté des pays du Sahel. La population nombreuse et croissante a besoin de se nourrir, mais n'a pas les moyens d'adopter des modes de culture efficaces. C'est pourquoi elle se trouve forcée de pratiquer des activités agricoles qui ne sont pas nuisibles à long terme pour l'environnement. Les changements climatiques observés depuis quelques décennies semblent aussi augmenter la fréquence des sécheresses et accentuer le problème de la désertification. Ces changements climatiques sont probablement causés en grande partie par les activités humaines. Voilà. Alors, il reste une seule page pour ce cahier. Donc, l'accroissement des milieux à risque dans le monde. Dans le monde, de plus en plus de milieux agricoles sont fragiles et exposés aux catastrophes naturelles. Toutefois, l'accroissement des milieux à risque est surtout causé par les actions humaines qui contribuent à la dégradation des sols et au réchauffement du climat. Cette situation pose un défi immense pour l'ensemble de la planète. La dégradation des sols. Le phénomène de dégradation des sols ne concerne pas seulement la région du Sahel. Il touche une partie importante des terres agricoles du monde. La dégradation des sols peut être causée par des facteurs naturels, comme le manque d'eau et l'érosion par le vent ou l'eau. Plusieurs activités humaines contribuent à aggraver la situation. L'utilisation de produits chimiques en agriculture, la surexploitation des terres agricoles, le compactage des sols par de la machinerie ou du bétail, le déboisement, etc. Alors, c'était tout pour le cahier. Alors, maintenant, on va écouter une petite toune. Et puis, on va passer au territoire des régions énergétiques. Alors, on repart avec le territoire énergétique après cette chanson. Alors, les différentes sources d'énergie. Il existe plusieurs sources d'énergie. Certaines sont renouvelables, c'est-à-dire qu'elles ne s'épuisent pas si elles sont exploitées convenablement, tandis que d'autres sont non renouvelables, c'est-à-dire qu'elles ne se régénèrent pas ou le font très lentement, alors après que les humains les aient exploitées. Les énergies renouvelables. Donc, il y a l'énergie hydraulique, qui est une énergie produite à partir de la force de l'eau. Ça peut être de l'énergie hydraulique à réservoir ou au fil de l'eau. Donc, il y a deux types d'énergie comme ça. Ensuite, on a l'énergie solaire, qui est une énergie provenant du soleil. C'est une énergie inépuisable. Et il y a aussi deux types d'énergie, donc l'énergie solaire thermique et l'énergie solaire photovoltaïque. La troisième source d'énergie renouvelable, c'est l'énergie éolienne, qui est une source d'énergie inépuisable. Et il y a également deux types d'énergie. Il y a deux types d'éoliennes. Alors, il y a les éoliennes en forme d'ovale et les éoliennes en forme de... comme on les connaît un peu, là, comme avec les trois pales d'éoliennes. Il y a aussi l'énergie géothermique, qui est une énergie qui provient de la chaleur dégagée à l'intérieur de la Terre. C'est une énergie inépuisable. Et il y a aussi l'énergie de la biomasse, qui est une énergie obtenue par la combustion de matière organique. Les énergies non renouvelables. Alors, on a l'énergie fossile. L'énergie fossile, c'est une énergie produite par la combustion de matière organique emmagasinée dans la croûte terrestre depuis des millions d'années. Ces matières organiques sont appelées hydrocarburants ou combustibles fossiles. On les trouve sous forme. Alors, il y a trois types d'énergie fossile. La première, c'est la forme gaz. C'est le gaz naturel qui est de l'énergie fossile sous forme gazeuse. La deuxième va être le pétrole, qui est l'énergie fossile sous la forme liquide. Et la troisième, c'est le charbon, qui est l'énergie fossile sous forme solide. Et la deuxième sorte d'énergie non renouvelable, c'est l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire est une énergie produite par la division des atomes. En se divisant, les atomes génèrent de la chaleur. Pour produire de l'énergie nucléaire, on utilise surtout des atomes d'uranium, un métal que l'on trouve à l'état naturel. Page 6. Les transformations des sources d'énergie. Afin de servir aux besoins quotidiens, les différentes sources d'énergie doivent généralement être transformées. Les formes d'énergie transformées les plus courantes sont l'électricité et le carburant. Alors, l'énergie hydraulique, ça se transforme en électricité. L'énergie solaire se transforme en électricité. L'énergie éolienne se transforme en électricité. L'énergie géothermique se transforme en électricité. L'énergie nucléaire se transforme en électricité. L'énergie fossile, le charbon, se transforme en électricité. L'énergie fossile sous forme de gaz naturel se transforme et en électricité et en carburant. Et puis l'énergie fossile sous forme de pétrole se transforme et en électricité et en carburant. Et pour finir, l'énergie de la biomasse se transforme en électricité et en carburant. Alors, toutes les énergies se transforment en électricité. Et puis, le gaz naturel, le pétrole et la biomasse se transforment en carburant. L'électricité est utilisée pour le chauffage des bâtiments, le chauffage de l'eau, l'alimentation des appareils électriques comme les téléviseurs et les ordinateurs. Et le carburant est utilisé pour essence, du kérosène, du mazout, du biodiesel, etc. Le carburant, en fait, c'est ça. On va utiliser ça pour les transports et pour l'alimentation des appareils à moteur comme les génératrices, les tondeuses à gazon, etc.
Celui, on m'entend bien.
Ok. Alors, les infrastructures de transformation. Différents types de centrales transforment différentes sources d'énergie en électricité. Alors, il y a les centrales thermiques qui transforment l'énergie fossile et l'énergie de la biomasse. Il y a les centrales hydroélectriques qui transforment l'énergie hydraulique. Il y a les centrales géothermiques qui transforment l'énergie géothermique. Et les centrales nucléaires qui transforment l'énergie nucléaire. Pour les éoliennes, le vent va être capté par des pales de l'éolienne, puis il va être transformé en électricité par un mécanisme placé à l'intérieur de l'éolienne. Les panneaux solaires ou les panneaux photovoltaïques captent la chaleur des rayons du soleil et les transforment en électricité. Pour produire du carburant, on va utiliser des raffineries. La raffinerie est l'endroit où on transforme le pétrole en carburant. Le pétrole peut être aussi transformé en différents produits comme le bitume, le goudron ou des lubrifiants. Quelles sont les sources d'énergie exploitées en Alberta? La province de l'Alberta exploite plusieurs sources d'énergie sur son territoire. C'est la plus grande productrice d'hydrocarbures, qui sont le pétrole, gaz naturel, charbon, au Canada. Elle est la troisième plus grande productrice d'énergie éolienne au Canada. L'Alberta produit également de l'hydroélectricité. La production d'énergie est l'activité économique la plus importante en Alberta. Elle occupait 27,6% de l'économie albertaine en 2011. Même si les hydrocarbures constituent la principale source d'énergie exploitée, les autres énergies assurent à l'Alberta une autonomie énergétique à long terme. Comment commercialise-t-on les hydrocarbures en Alberta? La commercialisation des hydrocarbures en Alberta prend plusieurs formes selon les différentes sources d'énergie. L'exploitation, donc l'extraction et la transformation. L'Alberta possède deux types de pétrole, le pétrole sous forme liquide et celui provenant des sables bitumineux. Pour extraire le pétrole liquide, on fait un forage, c'est-à-dire qu'on creuse un puits. On pompe ensuite le pétrole pour le faire monter à la surface. L'extraction des sables bitumineux est plus complexe que celle du pétrole liquide. Le sable bitumineux est un mélange de bitume, qui est un pétrole semi-solide, et de sable et d'eau. Le bitume doit être séparé du sable avant de pouvoir être transformé en d'autres produits. Il existe deux façons d'extraire le sable bitumineux selon la profondeur du gisement. À moins de 75 mètres de profondeur, on retire la couche du sol qui recouvre afin de créer une mine à ciel ouvert. Les sables bitumineux sont ensuite ramassés à l'aide de machineries lourdes, les camions, les pelles mécaniques, etc. À plus de 75 mètres de profondeur, on creuse des puits qui se rendent jusqu'au gisement, puis on y injecte de grandes quantités de vapeur d'eau. La vapeur ramollit le bitume qui peut ensuite être pompé à la surface. Le transport et la distribution. Les hydrocarbures de l'Alberta sont en partie transformés et consommés dans la province. Une grande part est aussi exportée dans le reste du Canada, aux États-Unis et en Asie. La situation géographique de l'Alberta pose toutefois un problème de taille. Les montagnes rocheuses créent une barrière naturelle qui complexifie le transport des hydrocarbures vers l'océan Pacifique pour la distribution en Asie. Afin de transporter sa production d'hydrocarbures sur des sites d'extraction vers les différentes raffineries canadiennes et américaines et vers les ports d'extraction, la province a aménagé un vaste réseau d'oléoducs et de gazoducs, ainsi qu'un vaste réseau de chemins de fer. Qui s'occupe de la commercialisation de l'énergie en Alberta? C'est le gouvernement de l'Alberta qui s'occupe de superviser et de réglementer l'exploitation des différentes sources d'énergie de la province. Pour ce faire, il a créé un ministère de l'énergie. Le gouvernement de l'Alberta possède 97% des terres contenant des sables bitumineux dans la province, ce qui lui donne le contrôle de cette ressource. Le ministère de l'énergie donne le droit à des compagnies privées d'exploiter cette énergie en échange d'une compensation financière. Le reste des terres, 3%, appartient au gouvernement canadien, qui doit veiller à offrir une population autochtone la possibilité de profiter de cette exploitation ainsi que de cette ressource. Quels sont les effets de la commercialisation de l'énergie sur l'Alberta? La commercialisation de l'énergie joue un rôle important dans l'économie de l'Alberta. En effet, les activités liées à l'énergie comptent pour près de 28% de toutes les activités économiques de la province. Les grandes compagnies qui exploitent les sables bitumineux en tirent d'énormes profits, ce qui compte en milliards de dollars. C'est aussi un domaine qui crée énormément d'emplois bien rémunérés. L'industrie des sables bitumineux employait 75 000 personnes en 2010 et ce chiffre devrait grimper à 905 000 au cours des 25 prochaines années. Grâce à sa production d'énergie, l'Alberta est l'une des rares régions à bénéficier d'une autonomie énergétique car il produit suffisamment d'énergie pour sa propre consommation. Toutefois, cette production est basée principalement sur des sources d'énergie non renouvelables. Cela signifie qu'un jour, les réserves seront épuisées. Assurer un développement énergétique durable. Le territoire énergétique de l'Alberta est une richesse pour la province. Il assure son autonomie énergétique en plus d'être très profitable pour le gouvernement, les compagnies privées ainsi que pour les Albertains qui profitent des retombées économiques comme les emplois. Toutefois, cette richesse est en grande partie fondée sur des réserves de sable bitumineux. Une ressource non renouvelable dont l'exploitation est très dommageable pour l'environnement et la santé. Leur exploitation est donc un enjeu. L'effet de l'exploitation des sables bitumineux. L'exploitation des sables bitumineux en Alberta entraîne de lourdes conséquences sur l'environnement et la santé des habitants. Le problème, c'est que la création de ciel ouvert pour l'extraction de sable bitumineux nécessite de raser la végétation et d'enlever la surface de la terre. Aussi, l'exploitation et le transport des sables bitumineux nécessitent l'installation d'énormes infrastructures, comme des raffineries, des oléoducs, des routes, etc. Les conséquences de ces problèmes sont la perte de la diversité des espèces dans ce milieu, aussi la perte de territoires de chasse et de pêche pour les autochtones et les habitants de cette région. La réduction de l'habitat de certains animaux, comme le lynx, le caribou, la marthe, etc., ainsi que la dégradation des terres agricoles et des territoires où vivent des autochtones à cause des fuites d'oléoducs. Un autre problème est l'émission des gaz à effet de serre. L'extraction des sables bitumineux consomme beaucoup d'énergie, ce qui contribue grandement à l'émission de gaz à effet de serre. La conséquence, c'est que le gaz à effet de serre contribue au réchauffement de la planète et au changement climatique. Certains de ces gaz augmentent l'acidité des cours d'eau et des rivières. Un autre problème, c'est l'impact des cours d'eau et les nappes souterraines. L'extraction des sables bitumineux demande une énorme quantité d'eau. L'extraction des sables bitumineux contamine l'eau avec des substances toxiques comme l'arsenic. L'eau doit être retenue dans d'immenses bassins. La conséquence, c'est la diminution du débit des rivières, l'impact possible sur l'approvisionnement en eau potable, ainsi que la contamination possible des nappes d'eau souterraines et des cours d'eau si les bassins se fissurent. Alors, mon beau-fils, mon maître, avez-vous préparé quelque chose de diabolique? Ah ah, ce sera du gâteau. Ah bon? Beignet mortel, non. Clafoutis au curare, oh classique. Macaron foudroyant, oh non. Tarte au venin de vipère, pantoute. Ah, le pudding à l'arsenic. Pom, pom. Pom 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 pom. Dans un grand bol de strychnine, délayé de la morphine, faites tirer à la casserole un grand verre de pétrole. Ah, je vais en mettre deux. Quelques gouttes de ségu, de la bave de sangsue, un scorpion coupé très fin. Et un peu de poivre en grain. Non! Émiettez votre arsenic dans un verre de narcotique. Deux cuillères de purgatif. On fait bouillir à feu vif. Je vais en mettre trois. Dans un petit plat à part, tiédir du sang de lézard. La valeur d'un dé à coudre. Et un peu de sucre en poudre. Non, le pudding à l'arsenic nous permet ce pronostic. Demain sur le bord d'une île, que mangeront les crocodiles? Le pudding à l'arsenic nous permet ce pronostic. Demain sur le bord d'une île, que mangeront les crocodiles? Vous versez la mort au rat dans du venin de cobra. Pour adoucir le mélange, brassez trois quartiers d'orange. Je vais en mettre seul. Décoré de fruits confits, moisi dans du verre de gris, tant que votre pâte est molle et un peu de vitriol. Non, oui. Ah, je savais bien que ça serait bon. Le pudding à l'arsenic nous permet ce pronostic. Demain sur les bords d'une île, que mangeront les crocodiles? Go loin, papouda pouda pouda da da. Yeah. Alors oui, il y a de l'arsenic dans les cours d'eau albertains. Pour s'en rappeler, le pudding à l'arsenic nous permet ce pronostic. Demain sur la bord d'une île, que mangeront les crocodiles? Yeah. Go loin, papouda pouda pouda da da. Yeah. Pour terminer l'étude de géographie, on va juste lire un petit texte sur le golfe Persique. La région du Golfe Persique possède la plus grande réserve de pétrole et de gaz naturel au monde. Ce territoire comprend 8 pays, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, l'Iran, l'Irak, le Koweït, l'Oman et le Qatar. Le plus grand gisement de pétrole au monde se trouve en Arabie Saoudite. Il s'agit du gisement de Ghawar, qui a une superficie de 280 km de longueur sur 30 km de largeur. Le territoire du Golfe Persique est aménagé avec des plateformes pétrolières pour extraire le pétrole situé dans le Golfe et des puits de pétrole pour extraire celui qui se trouve dans le désert. Des oléoducs et des gazoducs transportent la production vers des raffineries, puis vers des régions environnantes ou les ports. Une grande partie de la production est chargée sur des pétroliers qui acheminent partout dans la planète. Alors, on a fini la matière en géo. Oh my god! Oh my god! Ok, bon ben voilà, c'était la fin. Ok, ciao!